avec Pierre et Isabelle Chazeran, et maintenant avec le père Guy Lepoutre, jésuite ici à Paray-le-Monial. La rencontre de Jésus dans l'Évangile, les rencontres de Jésus dans l'Évangile. Mais commençons par un petit chant qui ouvre le cœur, numéro 30, page 14.
Oui Seigneur, tu es bon.
Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Crions de joie pour le Seigneur. Chantons remplis d'amour pour lui. Il m'a guéri, m'a délivré. Alléluia. Debout, c'est mieux. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Ma force et ma joie sont en lui. Oui, mon rempart, c'est son esprit. Ma confiance est pleine de son amour. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia.
6.
Merci, Seigneur, pour ton esprit et pour ta grâce mise en nos cœurs. Merci pour nos vies purifiées. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc, nous parlons ce soir, est-ce qu'on entend ? On n'entend pas. Bon, alors. Alors, on entend ? Pas encore. Alors, c'est pas la peine de parler. Bon, cher ami. Ah ! On entend ?
Non.
On n'entend pas. Pourtant, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Parce que c'est un sujet immense. Les rencontres de Jésus dans l'Évangile et essentiellement dans sa vie apostolique. Alors, on va finir par y arriver.
On va prendre l'autre micro.
Je suis là ?
Oui, c'est celui-là.
Mais j'ai l'impression qu'il est pris là.
Voilà. Alors, je crois que ça va commencer à aller. Donc, c'est un sujet tout à fait considérable. Nous allons faire un parcours qui donne à voir la personnalité et la pédagogie de ce Jésus qui vient de Dieu, ce Jésus qui vient de Dieu pour nous dire l'amour que Dieu a pour nous annoncer la bonne nouvelle de la part de Dieu. Donc, nous allons prendre le parcours de sa vie apostolique. Peut-être à la fin, si nous avons le temps, Nourette, qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas l'air d'entendre bien. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, là, ça y est. Bon, alors, Apparemment, on n'entend pas. Écoutez. Donc, moi, je continue. Hein. Je continue. Voilà. Donc, un parcours, à la fin du parcours, peut-être, nous parlerons un peu des premières années de Jésus dans sa vie à Nazareth. Mais on verra si on a le temps. Ce que je veux vous montrer, c'est 7 points de vue en situations variées où progressivement nous verrons que Jésus se manifeste et nous voyons les traits essentiels et remarquables de ce Jésus, le Fils de Dieu fait homme, au milieu des siens, au milieu de nous. Alors je commence tout simplement en m'appuyant sur l'évangile de Marc et de Jean. Je m'appuie sur la première rencontre, la rencontre avec Jean-Baptiste. Et on voit Jésus qui est là, qui se met à la queue-leu-leu de la foule des gens qui viennent pour le baptême. C'est comme à Lourdes, quand on va aux piscines, eh bien, il y a la queue, il faut beaucoup de monde. Et Jésus se met au milieu d'eux. Jésus se met comme un pêcheur au milieu des pêcheurs. Il se met dans, tout simplement au milieu pour marquer sa solidarité avec tous. Et donc, il est très modeste, très simple, sans apparat. Rien ne le distingue d'une certaine façon, sinon sa tenue, sinon ce recueillement profond. Et donc, voilà qu'il se met en humilité. C'est le premier trait de Jésus. Modestie, humilité, solidarité avec les hommes. Alors qu'il vient du Père, il vient de la sainteté de Dieu. Il porte la sainteté de Dieu et le voilà au milieu des pécheurs. Jean-Baptiste lui dit, mais ce n'est pas ta place, c'est toi qui devrais me baptiser. Non, 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 il faut que ainsi la justice soit accomplie. Donc Jésus va être là, mais dans ce moment-là, va déjà se manifester d'une façon très remarquable la présence de Dieu. C'est tout humain et c'est déjà tout divin. Parce que, voilà, il y a cette présence, le ciel qui se déchire, la colombe, comme une colombe plutôt, qui tombe et qui dit, mais voilà, il est envahi par le Saint-Esprit et la voix du Père s'entend. On entend 3 fois la voix du Père dans l'Évangile. Et ça, c'est la première fois. Oui, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Donc, c'est la première chose, cette manifestation. Et alors, Jean désigne Jésus, mais voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Et du coup, ça va être une sorte de développement extrêmement rapide. André qui est là, et sans doute que c'est Jean, les deux approchent, disent, mais et que cherchez-vous, dit Jésus. Mais où demeures-tu? Et donc, il passe la soirée, vous le savez, avec lui, jusqu'à point d'heure. Et ils sont complètement bouleversés par ce que leur dit Jésus. Donc, cet homme simple, modeste, humble, au milieu des autres, il est porteur d'une présence et d'un message qui bouleverse. Donc, André, et sans doute que c'est Jean à côté de lui. Le lendemain, André retrouve son frère aîné, Pierre, et lui dit, tu sais, nous avons trouvé le Messie. Jésus, alors Pierre va à Jésus, enfin Simon, pardon, Simon va à Jésus, et Jésus lui dit, tu es Simon, désormais tu seras Pierre, tu seras Pierre. Voilà. Et donc, il est saisi tout de suite, notre ami Pierre. Et puis ensuite, c'est Philippe. Viens, suis-moi. Philippe ne discute pas un instant, mais il voit bien que c'est le Messie. Il y a un rayonnement de Jésus. Et puis ensuite, il va prévenir celui qui s'appelle Nathanaël, qui semble être Barthélemy, et puis qui était sous son figuier tout à l'heure. Et voilà, Barthélemy, nous avons trouvé le Messie à Nazareth, de Nazareth. Pouf, voilà. Et vous savez les réticences de Nathanaël. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de sentir que Jésus, tout simple, se manifeste déjà comme le Messie. Mais rien n'est dit, il n'a rien dit, mais ça rayonne de lui. Donc il y a un rayonnement étonnant de Jésus dès ce moment-là. Donc, après cela, nous voyons qu'il y a une sorte d'irruption messianique, une irruption messianique. Tu es le Messie. Et au fond, ce que nous sentons, c'est que Jésus a une parole forte, une parole irrésistible, quelque sorte. Il exerce une séduction, une attirance, et pourtant, dans une sobriété, dans une modestie infinie, au milieu des autres. Alors, bien sûr, ce que je vous dis là, nous le voyons dans le début de l'évangile de Jean avec Nicodème. Comment est-ce que Nicodème est attiré? Mais enfin, comme il est pharisien, il ne veut pas se compromettre. Il arrive de nuit et toute la nuit, il va avoir une longue discussion avec Jésus. Et puis ensuite, c'est la Samaritaine que Jésus rencontre au bord du puits, en plein midi, en plein soleil. Et voilà. Et puis là aussi, le dialogue s'engage. Et ce que nous voyons chaque fois, c'est qu'il y a une espèce de je n'ose pas dire le mot magnétisme, il serait très, très déplacé, mais une attirance profonde, de cœur à cœur, vous voyez. C'est très vite, avec Nicodème, comme avec la Samaritaine, il y a une sorte de cœur à cœur, surtout que Jésus leur dit des choses essentielles. Nicodème, mais il faut renaître. Si tu ne renais pas, tu ne peux pas entrer dans le royaume, tout vieux que tu es. Et puis toi, la Samaritaine, qui a eu 5 maris, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, mais tu sais qu'il y a une source d'eau vive qui doit jaillir en toi. Et tu sais que désormais tu adoreras Dieu, ce ne sera pas sur la montagne ici ou là, ce sera en esprit et en vérité. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est très fort, vous voyez, avec des paroles de Jésus, qui sont des paroles d'une extrême simplicité, mais qui vont droit au cœur. Que ce soit donc encore le jeune homme riche, qui est fasciné en quelque sorte par Jésus, qui dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume? Puis là, comme il a de grands biens, voilà, il ne va pas répondre pour le moment, il ne va pas répondre au Seigneur. Et ensuite, nous avons beaucoup d'autres cas comme cela. Donc, on sent que Jésus est habité et de quelque chose, d'une réalité, d'une présence qui vient de plus loin que lui, de plus haut que lui. Et elle s'impose, mais sans écraser. Elle illumine, elle touche, elle rencontre les cœurs. Voilà, ça c'est Jésus. Quand vous voyez la rencontre avec Zachée, quand vous voyez la rencontre avec Lévi, Matthieu, vous voyez, c'est pareil, toujours cette attirance. Et le secret, c'est que ce qui est dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Donc, en amont de ça, si j'ose dire, en amont, au-dessus de ça, il y a la présence du Père qui traverse Jésus, qui habite Jésus, et qui fait que les êtres sont invinciblement attirés par la présence de Dieu qui est en lui, qui le traverse, qui l'habite complètement. Voilà. Donc c'est à la fois très humain, il est parfaitement humain, modeste, simple, au milieu des hommes, et en même temps c'est divin. Alors là, la première question ici, est-ce que je vais me laisser saisir? Est-ce que moi, je suis ouvert à une possibilité que Jésus se manifeste à moi comme le Messie? Si ce n'est pas le cas, priez très fort pour demander que Jésus vous manifeste de sa part et de la part du Père cette attraction de cœur à cœur. Voilà. L'attraction de cœur à cœur. Vous voyez, la bonne nouvelle commence par là. Une attraction de cœur à cœur. Voilà. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, malgré tout, très vite, il y a des oppositions. Il est venu dans le monde, et le monde ne l'a pas reçu. Et Nazareth, au fond, se braque devant cette autorité si forte d'un compatriote, d'un garçon qui a grandi au milieu d'eux. Voilà, un co-villageois. Et au fond, la parole qu'il dit, qui les questionne, qui les interroge, eh bien, les met tellement mal à l'aise qu'ils vont le pousser jusqu'au bord de la falaise pour le jeter en bas de la falaise. Puis vous savez ce que dit l'Évangile, Jésus, en face d'eux, traversa et alla son chemin. Jésus va son chemin. Voilà, ça c'est toujours Jésus, vous voyez. Jésus va son chemin. Jésus n'a aucune peur. Jésus n'a jamais peur. Jésus fait front, toujours. Voilà. Et il va son chemin. C'est un caractère fondamental, je crois. Et c'est pour ça que Jésus nous redit tout le temps, mais pourquoi avez-vous peur? Mais n'ayez pas peur. Jésus est dans l'obéissance au Père, et par conséquent, il fait ce que le Père lui dit de faire, et voilà, il va son chemin. On va chercher à le piéger, X fois, on va lui poser des questions pièges, oui, fréquemment, les scribes et les pharisiens, surtout, qui n'acceptent pas cette autorité d'un homme qui n'a aucune instruction officielle, qui n'a aucun diplôme, qui n'a aucun titre officiel pour être là le porte-parole prophétique de Dieu. Non, donc, il y a une sorte de rébellion, surtout à Nazareth, mais pas seulement à Nazareth, et aussi dans les autres synagogues. Ou bien, quand les jours de Shabbat, Jésus fait des guérisons. Mais qu'est-ce que tu fais le jour de Shabbat? Tu sais bien que c'est interdit. Tu n'as pas à faire de guérison le jour du Shabbat, etc. Et alors, ce qu'on voit, c'est que Jésus, donc, fait toujours des réponses très claires qui remettent en question ceux qui ont posé la question. Voilà. La pièce d'argent, ce qui est à César, remettez à César ce qui est à César, remettez à Dieu ce qui est à Dieu. Mais c'est formidable comme réponse. Remettez à Dieu ce qui est à Dieu. Nous n'aurons jamais fini de rendre grâce à Dieu. Donc, vous voyez, la réponse de Jésus, apparemment simple, un peu naïve, semblerait-il, mais non, elle est d'une profondeur extrême, parce qu'elle renvoie les questionneurs à eux-mêmes. Il les oblige à se poser la question de fond. Est-ce que vraiment je rends à Dieu ce qui est à Dieu? Voilà. C'est comme ça. Et donc Jésus est en face de ses opposants qui très vite, dès le début de l'Évangile, font une sorte de barrage en face de lui. Un barrage. Mais lui, il est là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus n'est jamais accusateur. Il est interpellateur, mais il ne maudit pas. Il ne maudit pas les pharisiens et les scribes, mais il déclare « Malheureux êtes-vous, malheureux êtes-vous ». Autrement dit, il fait une déclaration d'état de vie pour dire « Mais est-ce que vous vous rendez compte du malheur dans lequel vous vous enfermez ? Malheureux êtes-vous ». Mais il ne les maudit pas pour leur dire « Maudits soyez-vous ». Jamais, jamais, Jésus ne maudit pas. Jésus, ou bien il leur dit « Hypocrite », pour les réveiller. Mais jamais, jamais, il n'enferme ses interlocuteurs. Mais néanmoins, il dit la vérité. Il dit la vérité. Et ils sont touchés par ce que Jésus leur dit. C'est intéressant parce que Jésus laisse toujours une porte ouverte. Vous savez, c'est comme le cas de la femme adultère. La femme adultère vient là et puis Jésus dit à tous les accusateurs qui sont là, qui ont envie de jeter des pierres contre elle, eh bien Jésus leur dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Voilà. Et vous voyez, ça c'est Jésus. Il renvoie les personnes à leur responsabilité. Il renvoie avec justesse, avec amour, avec vérité. Si vous regardez alors les grands opposants, Hérode. Alors Hérode, Jésus se tait. Jésus se tait parce que Hérode est tellement pris dans son orgueil, dans sa méchanceté, dans sa suffisance, que de toute façon, il ne voulait faire de Jésus qu'un prétexte pour se moquer de lui. Et Jésus se tait, il se tait, et Hérode peut dire tout ce qu'il veut, il est quand même le roi, hein. Eh bien non, Jésus se tait. Voilà. Mais avec Pilate, attention, Pilate, le gouverneur romain, qui a grande autorité, là, Jésus sent que il peut engager le dialogue avec cet homme qui a peut-être des petites ouvertures à l'intérieur de lui. Et donc, voilà, il ouvre le dialogue avec Pilate pour lui dire que il est roi. Oui, il est roi. Jésus dit bien, je suis roi, je le suis. Mais je suis roi du royaume de Dieu, non pas un roi humain et terrestre. Voilà. C'est intéressant de voir aussi que même avec Judas, eh bien, Jésus ne ferme pas la porte. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Et quand Judas arrive, et que dans le jardin Gethsémani, et qu'il embrasse Jésus, Jésus ne se dérobe pas. Jésus aurait pu le repousser, dire « Va-t'en, va-t'en, tu es ignoble ». Non, Jésus lui dit seulement, pour le mettre dans sa vérité, « C'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme ». Voilà, vous voyez, Judas n'est pas enfermé, mais Jésus lui dit la vérité. Voilà, Jésus ne l'exclut pas, en quelque sorte. Il n'exclut personne, hein. Mais voilà. Donc, vous voyez, dès le début de la vie de Jésus et tout au long de la vie de Jésus, on voit un Jésus qui est extrêmement, comment dirais-je, ouvert, qui veut le dialogue, qui veut le dialogue. Et il est bien le chemin, la vérité, la vie. Il fait cheminer la Samaritaine, il fait cheminer Nicodème et combien d'autres. Il fait cheminer Zachée, bien sûr. Il est le chemin, la vérité. Il met les gens en vérité, surtout les opposants, avec justesse. Il y a une justesse de ton, il y a une justesse de parole chez Jésus qui est tout à fait extraordinaire. Voilà. Seigneur, mets-moi dans ma vérité. Seigneur, j'attends vraiment que ce soir et dans les jours qui viennent, cœur à cœur avec moi, tu me mettes dans la vérité de mon être. Seigneur, et c'est pour ça que tu es venu. Tu es venu pour mettre chacun de nous dans sa vérité, qui n'est peut-être pas très agréable, mais qui est essentielle pour pouvoir poursuivre le chemin et arriver à la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Voilà. Alors, troisième point, les grands, donc ici c'était les opposants, on a vu les séductions premières, premier point. Deuxième point, on a vu les oppositions, comment ça se passe, que c'est, et Jésus n'a pas peur. Jésus ne veut pas que nous ayons peur. Jésus dit toujours, n'ayez pas peur. La peur n'est pas de Dieu. Jésus est dans la force d'amour du Père. Il est debout, il fait front toujours. Troisième point, il est là pour un dialogue extrêmement profond, avec de personne à personne. Et ici, c'est vrai qu'il va retrouver Nicodème. Nicodème, voilà, tu vas renaître de l'Esprit Saint, tu peux renaître de l'Esprit Saint. Il va trouver la Samaritaine avec ses cinq maris, qui sont partis, et celui qui est là, qui n'est pas le sien, pour dire, mais il y a l'eau vive en toi, l'eau vive, et le Dieu qui est vérité. Il va voir Marthe et Marie, il va mettre Marthe et Marie dans leur vérité, l'une par rapport à l'autre, non seulement dans le Saint-Luc, avec la scène que Marie aurait choisi la bonne part, mais aussi dans Jean, chapitre 11, au moment de la résurrection de Lazare. Donc, voyons que Jésus, dans tout cela, veut vraiment faire avancer. Les pèlerins d'Emmaüs, pareil. Vous voyez ces scènes de dialogue de Jésus. Et Jésus fait parler les pèlerins d'Emmaüs. Il leur fait dire ce qu'ils portent de douloureux. Et puis, il les reprend. Et puis il donne son éclairage d'écriture sainte. Voilà, ça c'est Jésus, vous voyez. Faire parler, écouter et faire avancer. Voilà, les pèlerins d'Emmaüs, c'est très beau ça, oui. Et puis, je pense à la Cananéenne aussi, vous voyez. La Cananéenne, voilà, qui vient pour sa fille. Elle aime beaucoup sa fille, qui est habitée par un démon. Et puis voilà, et puis là, les apôtres, les bons apôtres font le barrage pour que cette femme-là ne s'approche pas de Jésus, ne vienne pas les ennuyer, ne vienne pas les déranger. Et puis voilà, et puis finalement, la femme franchit les barrages, elle arrive auprès de Jésus. Mais qu'est-ce que tu veux? Je suis venu, non pas pour eux, je suis venu pour les enfants d'Israël. Je ne suis pas venu pour les chiens, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas dans la foi d'Israël. Voilà. Et puis, voilà, Jésus, voyez, par sa pédagogie, va faire que cette femme, toute humble, toute modeste, va dire, mais Seigneur, les petits chiens prennent les miettes qui tombent de la table. Voilà. Donc, vous voyez, Jésus, dans ses dialogues avec les personnes, voilà, est toujours là pour les faire avancer. Voilà, d'une façon déconcertante, mais pourvu qu'elles arrivent à dire un acte de foi profond, nouveau, voyez. Et la Samaritaine qui va courir au village, dire, vous savez, cet homme-là, c'est le Messie, il m'a dit tout ce que j'avais fait dans ma vie, venez le voir. Donc voilà la Samaritaine qui devient une femme disciple, alors qu'elle porte lourd, la pauvre femme, très lourd, voilà. Donc, ce que nous voyons, c'est que ce que Jésus fait, eh bien, c'est toujours, comment dirais-je, inattendu, c'est sans aucune démagogie, c'est toujours en vérité, et ça se passe. Il n'y a rien de scolaire, si vous voulez. C'est pas scolaire du tout. Il n'y a rien du catéchisme, entre guillemets. Vous voyez, voilà, c'est une pédagogie d'amour fraternel, très fraternel. Il est le Seigneur. Il rayonne de la vérité de Dieu. Mais en même temps, il est très fraternel et pédagogue, très pédagogue. Voilà. Ce qu'il veut, c'est que les chemins s'ouvrent sur des dimensions inattendues. Donc, je retiens de ce troisième point que Jésus vient dialoguer avec moi. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et vraiment, Jésus veut vraiment dialoguer avec chacun d'entre nous. Il faut que nous ayons le désir du dialogue, pour que nous demandions à Jésus, Jésus, parle à mon cœur. Jésus, dis-moi ce que tu veux me dire. Jésus, tu peux m'interpeller. Jésus, je compte que tu m'questionnes, que tu m'interpelles. Voilà, c'est la manière de Jésus. Il est très relationnel, très interpersonnel, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Alors, la quatrième, c'est un petit peu le pivot central. Il y a 7 points. Le quatrième, c'est au milieu. C'est le pivot central, ça. C'est au fond l'immensité de ces foules qui sont sans berger, qui sont dispersées, qui sont perdues. Toutes ces brebis, tous ces agneaux, ces moutons qui sont perdus. Et Jésus est bouleversé dans ses entrailles, dans son cœur, mais aussi dans ses entrailles. Tout son être est saisi. Et on le voit, les apôtres, dont je vais parler dans un instant, les apôtres voient bien qu'il est bouleversé dans ses entrailles. Voilà, ces foules sont sans berger. Et alors là, Jésus, donc, va guérir les malades, mais, j'allais dire, ça sort de lui, les guérisons. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour du Père qui passe dans son regard, qui passe dans ses mains, qui passe dans ses gestes, dans ses paroles, pour chacun, pour chacune. C'est extraordinaire. Dans Saint Matthieu, vous avez 9 passages où il est dit, les foules étaient là, et il y a beaucoup de malades étaient là, et il les guérissait tous. Les paralysés, les boiteux, boiteux, les aveugles, les muets, les sourds, etc., tout ce que vous voulez. Donc, voilà, il les guérissait tous. 9 fois dans saint Matthieu, c'est redit comme un espèce de leitmotiv. Alors, évidemment, il y a quand même une fois où ça n'a pas marché. C'est à Nazareth. Ah, ça, c'est intéressant aussi, repérer ça. À Nazareth, ça n'a pas marché. Ben, que voulez-vous ? Ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas. Pour eux, Jésus, c'était un des leurs. C'était pas le Messie, c'était pas l'envoyé de Dieu. Non, non. Donc, il n'a pas pu faire aucun miracle à Nazareth. Ça a été impossible. Impossible. Voilà. Et puis, il est parti en faire dans les villages environnants. Quelques-uns. Voilà. C'est très important pour nous, voyez, qui essayons de vivre, de demander les guérisons au Seigneur. Est-ce que nous croyons suffisamment ? Est-ce que nous sommes assez dans une foi qui fait que nous voyons que Jésus est là au milieu de nous et qu'il veut avant tout nous guérir, nous sauver, nous sortir de nos misères ? Ça, c'est la première attitude de Jésus avec les foules. Il les guérissait tous. Et alors, quand vous pensez à la femme hémorroïde, vous savez, qui arrive par derrière tout doucement et qui touche le pan de son sa robe, bon, et elle sait qu'en le touchant, elle va être guérie. Voilà la foi de cette femme extraordinaire. Donc, et puis à côté de ça, donc, quand il y a les foules, il y a de longs enseignements, des enseignements très imagés, dans le langage des paraboles, avec les choses de la vie, de la nature, des champs, des semences, de grains et de livrées, voilà. Et puis, aussi la vie de la communauté, la bête, le bœuf qui tombe dans le puits, les repas pris en commun, etc., etc. Voilà. Donc, c'est un enseignement populaire, on peut dire, voyez. Quand les foules sont là, Jésus laisse déborder son cœur. Et alors, là, c'est la simplicité. Ça n'a rien d'académique, ça n'a rien d'alambiqué, c'est simple, c'est de cœur à cœur. Pour leur dire, vous savez, c'est un grand mystère, la fécondité de Dieu, l'amour de Dieu pour vous. Et puis voilà, et puis ne faisons pas de barrage, ne faisons pas d'empêchement. Il y a tellement d'empêchements possibles. Voilà. Donc, nous voyons que Jésus, là, dans ses discours, donne un appel à croire, et à entendre. Pour ce faire, quelquefois, il monte sur la montagne. Quand il est monté sur la montagne, il sait bien que ces messieurs, les scribes et les pharisiens, resteront en bas, parce que c'est un peu pénible de monter la montagne. Et alors, sur la montagne, là, il peut dire à son bon peuple, tout simple, tout modeste, tout pauvre, aux pauvres du Seigneur, il peut leur donner les béatitudes, voyez ? Les béatitudes sur la montagne, voilà. Mais donc, à un certain moment, Jésus se retire pour que la foule vienne vers lui. Ou bien il passe de l'autre côté du lac, et puis on vient vers lui. Ou bien il se met en bordure du lac. Enfin, c'est toujours sur les chemins, ou bien dans la nature. Il n'y a pas de grand amphithéâtre. Il n'y a rien de spectaculaire. C'est simple. Et alors, en plus, c'est spontané. Et voilà que des gamins arrivent. Une flopée de gamins qui courent et qui viennent se mettre autour de Jésus alors qu'il est en train de parler et qui dérange la prédication du Seigneur, de Jésus. Et alors les apôtres disent « Allez-vous-en, allez-vous-en, les gamins, vous gênez tout le monde, allez-vous-en. » Mais non, 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 Jésus dit « Au contraire, il interrompt son discours, il n'a aucune fierté, il n'a aucune, comment dirais-je, il ne revendique rien du tout. Venez, 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 venez autour de moi. » Et puis il les embrassait longuement, et puis voilà, et puis après il les bénissait, et puis il les renvoyait, voyez ? Ou bien, quand vous avez cette histoire que sur le chemin, parce que c'est souvent sur le chemin, Jésus marche, puis autour de lui, il y a des personnes qui sont là, qui suivent, sur le côté, derrière, voilà. Et les apôtres, je vais revenir, font les relais pour dire voilà ce qu'il est en train de dire. Et alors, on arrive donc à la sortie de Jéricho. Et alors, il y a ce pauvre Bartimée qui est aveugle depuis si longtemps, le fils de Timée. Alors qui crie, Jésus, Jésus, fils de David, sauve-moi, Jésus, fils de David. Et il crie comme c'est pas possible. Il n'y a plus moyen d'entendre les paroles que Jésus est en train de dire. On ne peut plus entendre le discours de Jésus. Pourtant, Jésus continue à parler, lui, tranquillement. Voilà, voyez. Et jusqu'au moment où il s'arrête, il n'arrange pas la situation. Il dit, mais appelez-le. Jésus, il aurait bien pu faire les 10 mètres qui le séparaient de cet homme-là pour aller à sa rencontre, surtout qu'il était aveugle. Non, appelez-le. Et voilà, tous ceux qui faisaient opposition, tout à coup deviennent collaborateurs de Jésus. Ils deviennent collaborateurs de Jésus, puis, allez, viens, vite, dépêche-toi, il t'appelle. Et lui, jetant son manteau, se bondit dans les ténèbres, parce qu'il ne voit rien, le pauvre, hein, et puis vers Jésus, à toute vitesse, sans l'aide de personne, apparemment. Voilà, mais qu'est-ce que tu veux ? Bah, Seigneur, que j'y vois. C'est très intéressant de prendre les choses sur le vif, voyez, pour voir la manière de Jésus, quoi. Il parle, il enseigne, il marche sur les routes en enseignant, en disant toutes sortes de choses de la part de Dieu, de son Père, du ciel. Et puis, en même temps, il est disponible. Il est disponible pour eux. Des interruptions inattendues, des interruptions très dérangeantes. Mais voilà, ça fait rien. Il est là pour eux. Répondre et être prêt, être disponible. Vous voyez, c'est très intéressant de voir la façon de faire de Jésus. Cette espèce de simplicité, cette espèce d'humanité. Il n'y a pas d'appareil, il n'y a pas de micro non plus d'ailleurs, il n'y a rien du tout. Hein, et puis voilà, il est là, et il parle, il dit ce qui vient de son cœur. En face de cette foule qui a besoin de nourriture spirituelle, qui a besoin d'enseignement, qui a besoin de guérison aussi. Puis, à un moment donné, il y a besoin de pain aussi. Après quelques jours qu'ils le suivent, là, de l'autre côté du lac, il y a besoin de pain. Enfin, vous voyez, c'est tout ça. C'est Jésus. Voilà. Et le soir venu, toujours Jésus, il provoque un peu. Qu'est-ce qu'on va leur donner à manger ? Oh, 200 deniers de pain ne suffirait pas. Bon, eh bien, combien avez-vous ? 5 pains et 2 poissons. Et 5, oui. Eh bien, allez, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et voilà, il les questionne. Et puis, au bout du compte, il leur dit, allez, faites-les asseoir. Entre nous, soit dit, c'est de la folie douce, parce que le soir tombe, la nuit est bientôt là, et ces gens, ils ont faim. Il faut les renvoyer vers les villages. Mais non, faites-les asseoir. Et Jésus leur dit, bien, par rang de 50 et de 100. Voilà. Et puis après ça, Jésus, quelle que soit sa fatigue, parce qu'il prêche depuis le matin, Jésus prend les 2 pains, puis les 5 pains, il les rompt, puis il donne jusqu'à point d'heure pour nourrir 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, dit aimablement Saint Matthieu. Voilà. C'est Jésus, ça, vous voyez, c'est l'enseignement de Jésus. Voilà, comment est-ce qu'il nourrit la foule ? Comment est-ce qu'il guérit la foule ? Comment est-ce qu'il l'édifie ? Comment il la met dans une sorte de confiance qui l'habite, lui, de confiance dans le Père ? Et il ensemence ça dans les cœurs. Et tous les cœurs écoutent ça. On ne se lasse pas de l'écouter. Et voilà, ça rentre peu à peu. Voilà, mais c'est une prédication extraordinaire, c'est une prédication de foule, c'est une prédication pour les pauvres du Seigneur, quoi. Voilà, et c'est magnifique. Ça n'a rien d'universitaire, pour le coup. Hein, voilà, ça suscite pas mal de jalousie, c'est vrai, de la part de ceux qui s'y connaissent. Alors, il faut que je me dépêche, parce que... Donc, cinquièmement, nous passons aux apôtres. Il y a les apôtres, il y a les 12, il y a les disciples... qui sont des relais pour Jésus. Jésus les a mis dans le coup progressivement, il les a choisis, parce que le Père lui a dit de les choisir. C'est le Père qui a donné les apôtres à Jésus. Donc ils sont là comme des relais, comme des porte-paroles, Quelquefois, quand il y a beaucoup, beaucoup de monde, les apôtres sont disposés ici et là, ou les disciples, pour transmettre par oral ce que dit Jésus. Il n'y a pas de haut-parleur. Hein. Et donc, par oral, on transmet de proche en proche. Vous voyez, ça se communique de proche en proche. Et les apôtres et les disciples sont là pour transmettre la parole de Jésus. Donc, ils sont disposés là, ils sont très attentifs. Et puis après ça, Jésus les envoie. Jésus leur dit, allez sur les routes, allez annoncer que je vais bientôt venir. Allez, faites des guérisons, et puis faites des délivrances de démons. Allez, je vous donne tout ça. Et d'une certaine façon, vous voyez, ils galvanisent, entre guillemets, ces apôtres et ses disciples pour qu'ils soient des bons relais. Il les a choisis. Je vous ai choisis. Je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et donc, cette façon de faire de Jésus, vous voyez, est une façon qui s'irradie. Il irradie ce qu'il a reçu du Père, ce qu'il vit de la part du Père, ça s'irradie dans ses disciples et dans ses apôtres particulièrement. Voilà, il y a un certain ordre des choses. À certains moments, il est uniquement avec ses apôtres qu'il enseigne, et puis d'autres fois avec les disciples qui sont plus mobiles, moins. Il y en a 72, c'est entendu, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Puis il y a les femmes apôtres aussi qui suivent Jésus. Donc vous voyez, il y a tout cet environnement de Jésus, de ceux qui sont fidèles à lui et qui entrent peu à peu. Jésus les suit, Jésus les écoute. Il leur laisse beaucoup de liberté, Jésus. On voit bien, sur le chemin, ça discute pas mal entre les apôtres pour savoir quel est le meilleur ou autre chose. Et donc sur le chemin, ça discute. Et Jésus, de loin, il marche devant. Souvent, Jésus marche devant. Il ouvre la route quand il n'y a pas trop de monde. Alors, et puis, là, il dit, mais qu'est-ce que vous étiez en train de dire? Qu'est-ce que vous racontiez, là? Et puis, il les rabroue, il les éduque, il les remet à leur place. Voilà, il y a une éducation du Seigneur. Comment pourrait-on être disciple? Comment pourrait-on être apôtre si on n'avait pas cette éducation de Jésus? Ça, c'est sûr. Vous voyez. Mais ce qui me frappe, c'est quand même l'espèce de liberté et que les apôtres ont leur style de chacun. André n'est pas Pierre, Jean n'est pas Jacques. Voilà, Barthélemy est différent de Thaddée, etc. etc. Donc, on voit comment Jésus agit avec ses siens pour les aider. Alors, quelquefois, les trois là, qui vont sur la montagne avec lui, et là, Jésus est transfiguré, il est révélé dans la splendeur de gloire du Saint-Esprit, et révélé le Père, la parole du Père. Mais auparavant, Jésus était là, entouré de Moïse et d'Élie. Et puis, Pierre, Jacques et Jean, voyez, regardez, tout à fait étonnés. Mais voilà, c'était une révélation particulière pour armer ces trois-là, ces trois disciples-là, ces trois apôtres-là, qui allaient se retrouver à Gethsémanie et qui allaient dormir à Gethsémanie. Mais ils sauraient qu'ils avaient vu le Seigneur dans sa gloire. Ils le sauraient après. Donc voilà. Vous voyez, tout ça est très, comment dirais-je, mu par le Saint-Esprit. Voilà. Voilà. Et alors, entre parenthèses, quand ils descendent de la montagne, et à ce moment-là, ils voient la foule qui est en bas, très agitée, parce qu'il y a un enfant, il y a un garçon qui a des convulsions. Une sorte de crise d'épilepsie, mais qui paraît bien être démoniaque. Et voilà. Et ils ne savent pas que faire. Ils sont complètement perdus. Les apôtres et les disciples sont complètement perdus. Alors Jésus prend son temps. C'est intéressant, ça aussi. Jésus prend son temps pour faire parler le Père, pour que le Père dise ce qu'il a à dire. Voilà. Et puis ensuite, donc il n'a pas peur, Jésus, des convulsions de ce jeune. Et puis vient le moment où, avec autorité, son autorité, allez, va-t'en, sors de là, esprit mauvais, tu n'as rien à faire ici. Et puis l'enfant tombe comme mort, parce que la force mauvaise l'a quitté, est sortie de lui, et il est tout. Voilà, c'est comme s'il perdait celui qui le faisait vivre mal, mais qui le faisait vivre auparavant. Voilà, Jésus ne s'effraie pas, il le relève doucement, il le remet debout, signe de la résurrection, vous voyez, signe anticipé de la résurrection. Voilà, ce que je veux dire à travers ça, c'est qu'il éduque les siens, Il leur dit, vous savez, ce genre de démon-là, ça ne peut sortir que par le jeûne et la prière, c'est tout. Il faut apprendre à prier, mes pauvres amis. Hein, il faut apprendre à prier, il faut apprendre à jeûner. Si vous ne jeûnez pas, si vous ne priez pas, que voulez-vous ? Ça ne peut pas marcher. Voilà. Oui. Donc, c'est cette humanité de Jésus, vous voyez, qui éduque les siens. Mais sur le terrain, voilà. On dit, nous, on dit à l'évangélique. Ben oui, à l'évangélique, c'est-à-dire sur le terrain, quoi, en toute simplicité. Voilà. Donc, est-ce que je pense que le Seigneur me met avec lui, dans le bon combat, voilà, pour être disciple, pour être femme disciple, peut-être, pour être apôtre, voilà. Alors, sixièmement et dernièrement, non, il y en a un septième, voilà, c'est la lutte contre les démons. Voilà, il ne faut pas oublier ça. Parce que le prince de ce monde est au travail, avec les gens tourmentés. Et Jésus prend son temps pour intervenir, sans se laisser impressionner. Jésus ne se laisse jamais impressionner. Depuis combien de temps cela arrive ? Quel est ton nom ? Légion, tu t'en vas de là. Légion, tu t'en vas dans tous les cochons, tu te jettes dans le... Voilà. Voilà. Donc il y a à la fois une sorte de pédagogie, de patience de Jésus, et puis en même temps, une autorité, un acte d'autorité du Seigneur. Voilà. Une idée, oui. Donc, il donne cette autorité à ses disciples. Cependant, c'est sûr que le prince de ce monde est là, que le prince de ce monde le guette, et Jésus le sait très bien, et Jésus est venu pour que le prince de ce monde, se déchaînant contre lui au moment de la passion, le prince de ce monde doit se déchaîner contre lui. Mais Jésus va être là pour vivre la victoire de l'amour. Il va être condamné. Toutes les forces du mal vont être convoquées, vont être mobilisées par le prince de ce monde. C'est son heure. Et mais alors Jésus, lui, va se tenir debout. Il va résister. Il va être d'une grande dignité dans tout le temps de sa passion. Et voilà, il va être saisi par l'amour et d'un bout à l'autre de sa passion. Il va avoir une passion d'amour pour montrer que l'amour est plus fort que le mal peut se déchaîner. Il le prend sur lui complètement. Mais voilà, parce qu'il veut qu'en lui, à travers sa présence et son cœur, eh bien, l'amour soit vainqueur. Voilà, ça c'est évidemment la lutte. Et si vous voulez, je crois que c'est très important, quand on lit les évangiles, de bien voir que nous sommes pris, nous, si nous voulons être avec Jésus, nous sommes évidemment pris dans le combat. Nous voyons que ce combat existe et qu'on peut, avec le Seigneur, voilà, est-ce que nous voulons bien participer à ce combat du Seigneur ? Ça vaut le coup. Parce que participer au combat du Seigneur, c'est participer à sa victoire, ça c'est sûr. C'est participer éminemment à sa victoire, à sa passion et à sa résurrection. Donc voilà, mais c'est quand même un combat. Et je pense que Jésus nous dit à travers tout ce combat qu'il mène tout au long de sa vie, depuis les tentations au désert, et puis tous les traquenards qui lui sont présentés au cours de sa route, et puis à la fin, dans sa mort sur la croix, on voit que c'est un combat contre le mal, contre les forces du mal, et qui sont vaincues. Éloignez-vous, partez, éloignez-vous. Ça ne veut pas dire que les forces du mal sont mises à mort, non. Ça veut dire que les forces du mal sont obligées de céder la place et de s'en aller, d'arrêter cette espèce de domination qu'ils ont contre les hommes, contre l'humanité, que Jésus vient délivrer. Voilà. Alors, la dernière, il faut que je cherche rapidement. Voilà, Jésus, septièmement, donneur de paix. Jésus ressuscité, donneur de paix, donneur de mission, donneur de pain de vie, donneur du Saint-Esprit. C'est ça, Jésus, voyez ? Donneur. Donneur de paix, de mission, de pain de vie, de Saint-Esprit. Et voilà. Et c'est comme ça qu'il rejoint les apôtres, pour leur donner ça, la puissance du Saint-Esprit et la participation à sa mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc c'est un langage d'amour, un langage de bénédiction. La dernière scène, c'est celle de l'ascension. Quand Jésus, ayant donné quelques consignes, Jésus se tourne vers eux sur la montagne, et puis voilà. Il fait le geste de les bénir. Il les bénit. Et pendant qu'il les bénit, il s'élève, et il disparaît dans les nuées, nous est-il dit. Ça veut dire que Jésus s'éternise, voyez, il s'éternise dans le geste de nous bénir. Il est éternellement nous bénissant. Il s'en va vers le Père dans le geste de nous bénir, parce que c'est ça sa mission. Voilà, c'est la fin de son passage qui a commencé dans le sein de Marie et puis qui a été toute la suite que nous connaissons de la vie à Nazareth, où Jésus a appris à être homme, il a appris l'humanité, il s'est pétri de notre humanité, si l'on peut dire. Le Dieu s'est fait homme, il s'est investi, il s'est transformé en notre humanité. Et puis voilà que, eh bien, il passe en faisant le bien, à la fin, il passe à travers le péché, la mort et tout ce qui est contre lui de la force du mal, et puis voilà, et puis il remonte vers le Père. Voilà, la vie de Jésus, c'est un passage. Mais alors, nous voyons ce passage, et tout ce que nous avons à vivre, c'est à essayer de comprendre. Parce qu'il continue à passer dans notre terre, dans notre monde, dans notre humanité. Il continue à passer. Et nous, il faut que nous regardions attentivement avec tous ces signes qu'il a vécu et qu'il a donnés, ces signes de l'Évangile. Il continue à les vivre, il continue à nous les donner. Voyez, telle façon que nous soyons peu à peu saisis par sa révélation. Voilà, tous les mystères du Christ. Qui s'actualise jour après jour, le Christ est toujours de passage au milieu de nous, de passage, non pas un passage du ciel, un passage de grand amour, vous voyez, pour nous entraîner vers le Père. Voilà, nous allons rester là si vous voulez. Il est temps, je crois, d'aller pour les vêpres. On va terminer par un « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, si vous voulez, vous allez aux Vêpres. Je crois que c'est à 6h30. Vous avez juste le temps d'aller jusque là-bas. Merci de votre attention et prions. Ah, c'est ici? Ah bon, très bien, ben voilà, tant mieux.